France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'oubli est une mécanique parfois impossible à comprendre. Des personnalités incroyables, des talents uniques, des destins romanesques se retrouvent entièrement oubliés en quelques poignées d'années. La faute au hasard, aux circonstances historiques sans doute, et parfois aussi au sexisme et autres formes de discrimination. Ainsi en va-t-il de Germaine Taillefer, prodigieuse compositrice née en 1892 à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, dont la musique, tout comme le nom, ne dira sans doute rien aux plus jeunes de nos auditrices et auditeurs. Pourtant, elle fut la protégée de nul autre qu'Éric Satie, et fait partie du fameux groupe des Six, avec Georges Auric, Louis Duret, Arthur Honegger, Darius Milhaud et Francis Poulenc. Elle mène aussi une vie des plus invraisemblables, croisant les chemins de Modigliani, Picasso, Ravel ou encore Charlie Chaplin. C'est cette vie qu'elle raconte dans ce numéro exceptionnel du Bon Voyage de Jacques Florent, diffusé pour la première fois le 25 janvier 1960 sur Paris Inter. C'est aux côtés de Max Favalelli qu'elle déambule dans les rues de la capitale, nous offrant une visite guidée de l'effervescence musicale et intellectuelle du Paris des années 20. Un voyage à travers l'extraordinaire vie de Germaine Taillefer, donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Et maintenant, Jacques Florent vous invite à suivre une musicienne en voyage. À vous, Bernard Lavalette.
Un voyage ? Non, une promenade. Récemment, Pierre Petit vous décrivait en Italie Santa Agata, Roncole, village où vécut Verdi. Georges Auric, lui, vous emmenait à Barcelone. Eh bien, ce soir, avec, sinon plus de modestie, en tout cas plus de grâce, c'est une femme, une musicienne, qui se laisse inspirer par sa ville de prédilection, Paris. D'abord, dans son 6e arrondissement, orné encore de café charbon aussi bien que d'antiquité. Ensuite, dans les environs à Montfort-l'Amaury, ville fortifiée, devenue cité le week-end, qui a conservé tout de même ses pavés Louis XIV et ses maisons penchées, afin d'avoir un air de famille avec Saint-Germain-des-Prés, la sagesse en plus, telle que l'enseignent les marronniers en rang devant la poste. Montfort-l'Amaury, Paris-Montfort, donc 40 km, la distance qui sépare deux maisons amies. La distance d'un week-end, quand autrefois notre musicienne en voyage passait ses beaux dimanches chez Maurice Ravel. Seule femme, parmi les grands de sa génération, on se souvient d'une photo célèbre qui la représente près d'un piano, au milieu de ses amis, qui étaient Georges Auric, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Louis Duret, Arthur Honegger. Oui, vous avez reconnu les Six, les fameux Six, musiciens groupés moins pour se faire valoir que pour affirmer leur goût avec plus de force. Leur foi commune en la musique qu'ils appréciaient. Cela nous paraît normal aujourd'hui, puisqu'il s'agissait des œuvres de Stravinsky, Satie ou Ravel, mais à l'époque, ces goûts, cette foi, avaient l'audace de la jeunesse. Et sur cette photographie, où figure aussi un poète, Jean Cocteau, le théoricien du groupe, on peut imaginer la poésie présente deux fois parmi ces musiciens, grâce à la douceur, les yeux de celle qu'ils avaient choisi de placer au milieu d'eux. Marie Laurencin pour l'oreille, la définit Cocteau, pariant que son marchand d'oiseaux, ses balades et ses jeux de plein air, son petit navire, la magie de son Paris, ont autant séduit ses amis qu'ils les ont amusés. Bon voyage, Germaine Taillefer. Germaine Taillefer avait donné un rendez-vous à notre reporter, qui devait l'accompagner, Max Favalelli. Parisien d'adoption, lui, vous savez qu'il est originaire de Corse, il ne manque jamais une générale, à condition que le tout Paris soit convié, bien entendu. Et même dans ce cas, si cette générale a lieu à Cannes ou à Deauville. Ce premier rendez-vous devait tout de même lui donner une leçon de parisianisme.
C'est un grand privilège, madame, que de vous avoir comme professeur de parisianisme, mais vous ne trouverez pas singulier que j'exige de vous des brevets, quand même, pour justifier cette qualité. Si vous m'avez d'ailleurs entraîné à la closerie des Lilas, où nous avons trouvé refuge dans un salon parfaitement protégé, c'est, je pense, parce qu'il y a là quelques souvenirs pour vous, et que vous allez me prouver que vous êtes bien parisienne.
Je suis parisienne de parents normands, berrichons, mais je suis née près de Charenton. Ceci pourrait expliquer beaucoup de choses. Je suis la dernière d'une famille de 5 enfants. J'ai fait des études musicales avec beaucoup de difficultés, comme ça se trouve dans les vies. où mon père ne voulait pas que je fasse de la musique, ma mère y tenait essentiellement, enfance très compliquée, difficile, examen, prix, échec, enfin finalement, j'arrive à 18 ans, l'âge où une de mes sœurs aînées se marie avec un sculpteur. Et c'est comme ça que j'étais amenée à la Closerie des Lilas, car ce sculpteur, mon beau-frère et ma sœur, recevaient chez eux tous les peintres cubistes, les hommes de lettres, des gens illustres comme Paul Fort, qui à ce moment-là ne l'était pas tellement, mais qui l'a été par la suite, puisqu'il a été élu prince des poètes. Mais tout de même, je rencontrais familièrement, soit à la Closerie, soit dans l'atelier de ma sœur, Guillaume Apollinaire, Marie Laurencin naturellement, Tristan Tzara, Zadkine, Léon Paul Fort et sa fille, avec lequel j'étais intimement liée car elle avait à peu près mon âge.
Mais je crois même que vous avez été le témoin au mariage de la fille de Paul Fort.
J'ai été le témoin du mariage et des fiançailles, car aussi nous avions tous les peintres futuristes qui se réunissaient à la Closerie, avec Marinetti, Gino Severini, qui était le fiancé de Jeanne Paul Fort. Et c'est comme ça que j'étais amenée à témoigner de son mariage, car nous étions tous les trois les plus jeunes de la bande, et nous étions toujours les derniers à nous amuser, à faire des blagues, au grand naturellement.
Et vous parliez tout à l'heure de l'élection de Paul Fort, prince des poètes. Je crois que cette élection a été pas mal tumultueuse.
Oui, cette élection a lieu à Luna Park. Alors toute cette bande de peintres, de jeunesse qui l'avait suivi à Luna Park, avec des fleurs, avec des couronnes, nous allions dans toutes les attractions, c'était une soirée, plutôt une nuit qui a été mémorable d'amusement et de gaieté.
En effet. J'aperçois, et nous pouvons apercevoir par la baie en face de nous, un building assez maussade, un cube de ciment assez disgracieux, mais j'imagine qu'à sa place vous voyez encore, avec vos yeux de 20 ans, le fameux balbulier qui était là.
C'était un endroit ravissant à voir à l'extérieur, mais qui était absolument interdit aux jeunes filles, car ce bal qui était ce balbulier réputé malfamé était encore plus malfamé chaque année quand on y donnait le bal de l'internat. Alors là, il fallait mieux même pas approcher la Closerie des Lilas, car du balbulier débordait pas mal de tous ces jeunes gens, de tous ces jeunes médecins, il fallait mieux s'en écarter.
Et est-ce que cela signifie que vous étiez farouche, timide?
On était farouche, mais même sans être particulièrement farouche, il faut dire que les étudiants en médecine se permettaient pas mal de privautés et qu'il fallait mieux les éviter.
Et vous parliez de votre timidité tout à l'heure, mais est-ce que vous n'étiez pas un peu protégé justement par tous ces camarades qui vous entouraient?
Oui, un petit peu trop.
Je vous demande une confession, là.
Oh, mais un petit peu trop, naturellement. J'étais comme toutes les jeunes filles, prête à tomber amoureuse du premier garçon que je voyais. Mais évidemment que mes camarades, les six en particulier, faisaient un très grand barrage autour de moi. C'était d'ailleurs assez gentil parce qu'ils me considéraient comme leur sœur et agissaient comme des frères aînés. Mais quelquefois, ça ne m'allait pas toujours. Mais enfin, c'était tout de même dans l'ensemble un sentiment extrêmement agréable et gentil. D'ailleurs, cette amitié a duré toute notre vie.
Eh bien, c'est cette amitié, d'ailleurs, que nous allons retrouver tout au long de notre exploration à travers Paris.
1925, c'est la guerre du Rif. Les surréalistes mettent à feu et à sang la Closerie des Lilas. On y donne un banquet en l'honneur du poète Saint-Paul Roux. De l'autre côté de la Seine, au cabaret Le Bœuf sur le Toit, la nuit, le Charleston donne le ton du plaisir. Mais le jour, quelle musique joue donc le piano de Germaine Taillefer? Aujourd'hui, on ne se bat plus boulevard du Montparnasse en l'honneur d'un poète. Les héros sont fatigués, Fujita s'est converti, il s'appelle Léonard, comme Vinci, comme tout le monde. Et les terrasses des cafés où Modigliani vendait ses dessins ne sont plus fréquentées que par les voyageurs de banlieue qui, à la gare voisine, ont raté leur train et cherchent l'aventure à bon marché. Qu'est devenu le bistrot où Germaine Taillefer venait téléphoner ?
Bien, voyez-vous, quand je vois ce grand cinéma magnifique, moderne, j'ai un petit serrement de cœur. Parce qu'avant, il y avait un petit bistrot, un simple petit bistrot qui s'appelait La Rotonde, où on rencontrait quelques artistes qui n'étaient pas du tout connus à l'époque, qui venaient de prendre leur café tous les jours, qui n'étaient tout simplement Picasso, Zadkine, Modigliani, Kiesling. Ils venaient tout simplement prendre leur café. Moi, comme j'avais souvent des coups de téléphone à faire, n'ayant pas le téléphone chez moi et que j'habitais tout près, alors à chaque fois que j'avais l'occasion de venir au café, c'était toujours des rencontres merveilleuses avec ces amis qui sont devenus naturellement merveilleusement célèbres par la suite. Mais à ce moment-là, qui étaient obscurs, mal habillés, sales et charmants.
Eh bien, écoutez, nous allons parler un peu plus longuement d'eux, mais nous allons aller chercher un refuge, si vous voulez, dans un des autres cafés célèbres de ce carrefour qui forme le fameux triangle. Et nous allons aller à la coupole.
De l'autre côté du boulevard, une brasserie a conservé un air glorieux, un peu comme si elle s'était fardée pour garder l'illusion de la jeunesse. Au sous-sol, on danse.
Bien que le bal de la coupole n'ait pas la réputation un peu effroyable du balbulier, j'ai préféré, madame, vous entraîner vers le bar. J'aimerais bien que nous évoquions un peu le temps où vous étiez encore au conservatoire. Comment avez-vous eu la révélation de votre don musical ?
Bien, mon don musical s'est révélé, comme toujours les dons se révèlent, très jeune. J'avais 3 ans, j'ai commencé à jouer sur un petit piano, jouais d'enfant. J'ai commencé à jouer des airs, en chercher, les transposer. J'ai fait ma première composition à 5 ans. Et je jouais de mémoire toutes les œuvres que jouaient mes sœurs, des sonates de Mozart, des sonates de Beethoven. Je jouais tout, j'avais déjà un petit répertoire sans connaître mes notes. Et alors c'est là que ma mère a voulu me faire travailler, me faire entrer au conservatoire, me présenter à un professeur. Et ça a été pour moi épouvantable, je trouvais que c'était beaucoup plus facile de jouer sans connaître les notes, d'improviser, de composer, que d'apprendre le solfège. Alors là, j'ai eu des débuts extrêmement durs. Enfin, je suis arrivée tout de même à avoir quelques médailles et prix au conservatoire. J'ai été une élève sage jusqu'à la guerre. Mais pendant la guerre, pendant les classes qui étaient désaffectées au conservatoire, j'ai rencontré pour mon bonheur Darius Milhaud, un autre ami qui s'appelait Cliquet, et Arthur Honegger. Comme les classes n'avaient pas lieu, nous nous réunissions toujours chez Darius Milhaud. On allait faire acte de présence, on allait s'inscrire et on partait, on quittait la classe, on allait chez lui. Alors là, j'ai découvert, grâce à lui, d'ailleurs Darius, qui est mon très très cher ami, Stravinsky, Le Sac du Printemps, Petrouchka, Schomberg. Enfin, toute cette musique qui représentait pour moi quelque chose de merveilleux et d'inconnu m'avait bouleversée. Et évidemment, quand je n'avais pas fini mes études au conservatoire, les derniers concours étaient désastreux, mais j'avais déjà fait mon choix.
Mais est-ce que le wagnerisme n'était pas une espèce de maladie de l'enfance pour les musiciens à cette époque ?
Juste avant la guerre, si, avant la guerre, j'ai subi la crise wagnérienne, comme tous les élèves à ce moment-là. Nous allions à l'opéra dans les petites loges du 6e ou 7e étage, je ne sais plus. Enfin, je sais que nous payions 2 francs et qu'on attendait 6 heures. On emportait des sandwichs, des partitions d'orchestre, et ostensiblement, on tournait le dos à la scène pour mieux suivre nos partitions, pour ne pas faire comme ces gens qui regardaient le spectacle et que nous méprisions beaucoup.
Ne pas se confondre avec les Béotiens.
Et naturellement.
Mais vous avez tout de même rencontré quelques personnages assez fabuleux. Tout à l'heure, vous avez prononcé quelques noms. Par exemple, Modigliani.
Oui, mais ça, c'était les petites rencontres d'après-midi, du hasard, du coup de téléphone, d'ailleurs. Je dois dire que Modigliani quittait guère ce petit bistrot. Il y arrivait le matin et il en sortait, Dieu sait à quelle heure, beau, merveilleusement beau comme le jour, mais toujours ivre. Et Zadkine, qui n'était pas ivre, mais qui était très son ami dévoué, ainsi que Kiesling, et je vous dis Picasso, à peu près à n'importe quelle heure du jour, on était toujours sûr de trouver un de ces de ces artistes et d'avoir toujours une petite conversation agréable et gentille et des verres et des pots à prendre avec la meilleure humeur du monde.
Mais je crois que Modigliani avait la manie de dessiner sur tous les morceaux de papier qui traînaient autour de lui, non ?
Oui, il les dessinait, il les distribuait, malheureusement pour mon compte, ils ont été égarés, et c'est un regret éternel pour moi. Naturellement, j'ai aussi quelques petits dessins faits par Modigliani. À ce moment-là, il n'avait pas naturellement la réputation qu'il a pris par la suite, même Picasso, même Zadkine, même Clissy, c'était tous des jeunes garçons assez malheureux qui se dépataient beaucoup dans la vie. Et alors, on ne tenait pas compte de ces merveilleux talents.
Bien sûr.
Et la première, j'en ai pas tenu compte, comme j'aurais aimé en tenir compte.
À vous entendre, madame, on a le sentiment que tous ces grands artistes, car ils étaient déjà de grands artistes, n'avaient pas la perception de leur célébrité ou de leur importance.
À vrai dire, je n'ai pas l'impression qu'ils étaient absolument persuadés qu'ils étaient des génies extraordinaires. Maintenant, il y a si longtemps que je peux me tromper. Mais les rencontres étaient des rencontres plutôt amicales. On sentait que chacun travaillait, chacun était naturellement absorbé par l'esthétisme qui s'était choisi. Mais aucun d'eux ne pensait être vraiment les grands génies du siècle. Personne ne se reprenait vraiment au sérieux. On travaillait tous, chacun travaillait dans l'enthousiasme de son travail. Et c'était comme pour moi pour la musique, n'est-ce pas ? J'ai jamais pensé que je ferais même une grande carrière de compositeur. J'écrivais de la musique parce que ça m'amusait.
C'est ça, on travaillait sans se soucier du reste.
Devant la gare Montparnasse, Méliès retraité vendait les jouets qu'il ne fabriquait plus au cinéma. Tournant le dos à sa boutique disparue, Germaine Taillefer a fui ce quartier, maintenant déserté par les dieux. La rue descend. Un peu plus bas, Saint-Germain-des-Prés essaie de prolonger comme il le peut les beaux jours reçus en héritage après-guerre de son voisin Montparnasse.
Alors, nous passons chez Lippe, on va prendre un pot.
Mais écoutez, on n'aura peut-être pas le temps d'y arrêter, mais enfin, comme nous saluons au passage tous les hauts lieux où s'unissent l'esprit et la limonade, on ne peut pas ne pas saluer Lippe. Je suis sûr, madame, que vous y avez vu souvent sur la Moleskine devant ces mosaïques qui étaient l'œuvre de son père, d'ailleurs, notre bon Léopold Fargue.
Mais oui, j'ai des souvenirs merveilleux de Léopold Fargue. Il y venait tous les soirs et il y retrouvait également Eric Satie. Et alors, naturellement, comme il savait que j'adorais rire, il me chantait des chansons toujours très drôles. Il les imaginait, je la rencontrais, ou en Champs-Élysées, elle met de mon gras, je vais te donner des baisers. Il chantait comme ça avec ses petits toits. Il disait, mais si ça ne te plaît pas, je vais te le chanter en I. Je la rencontrerai en I, ou Champs-Élysées. Tu lui dis, viens mon petit, on ira à les Tuiles. Et alors, naturellement, moi, j'étais enchantée, j'adorais rien. Paul Fargue qui était un prodigieux causeur.
C'était
une fantaisie folle. Et alors, il récitait le dictionnaire par cœur. Enfin, Dieu sait toutes les folies qu'il n'a pas fait.
Moi, je l'ai entendu un soir refaire tout le discours de réception d'Henri Drénier à l'Académie française en contrepétrie. C'était un exercice de vocabulaire extravagant. Eh bien, vous avez dit un mot qui est une clé pour vous, je pense. C'est un nom, c'est celui d'Éric Satie. Nous allons le rencontrer un peu plus loin.
Germaine Taillefer a pris le boulevard Saint-Germain. Mais tout de suite à droite, au coin d'une petite rue qui n'a que quelques dizaines de mètres, mais porte le joli nom de Villers-Excel, un souvenir l'arrêtait.
Cette rencontre à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, madame, a eu lieu dans la maison devant laquelle nous nous trouvons maintenant, chez Marcel Meyer, qui réunissait chaque dimanche, je crois, quelques musiciens. Et c'est là que vous avez rencontré pour la première fois Éric Satie.
Oui, c'est un de ces dimanches où on faisait beaucoup de musique chez Marcel Meyer. Elle invitait quelques amis. Et alors, elle m'a fait jouer devant Eric Satie des morceaux à deux pianos qui s'appelaient « Jeux de plein air ». Il y avait naturellement deux pianos chez elle. Nous les avons joués. Eric Satie était là. Et alors, ça a été la plus grande chose de ma vie, la chose qui a déterminé de ma carrière, c'est qu'Eric Satie m'a fait l'honneur d'aimer tellement ses pièces qui m'a dit, mais voilà, vous allez faire partie de notre groupe des Nouveaux Jeunes, car à ce moment-là, ce n'était pas les six, c'était les Nouveaux Jeunes, et vous êtes ma fille, je vous décrète comme ma fille musicale. Et avec l'enthousiasme de Satie à réunir ses petits, ses quelques musiciens, il m'a tout de suite lancé dans son groupe. Où, alors, à ce moment-là, nous n'étions pas six. Il y avait simplement un jeune Suédois qui habitait Montparnasse, qui était musicien, qui s'appelait Melkers, Louis Duret, Georges Auric et Darius Milhaud. Poulain, qui est arrivé un petit peu plus tard, il était militaire à ce moment-là, il s'est joint à notre petit groupe plus tard. Et on nous appelait les nouveaux jeunes. Ça a déterminé ma carrière, parce que sans Satie, jamais je n'aurais fait partie du groupe des six, et je n'avais pas fait le groupe des six, je n'aurais jamais été entraînée à écrire de la musique, et je n'aurais pas passé la merveilleuse jeunesse, car à ce moment-là, nous avons une jeunesse admirable. Le fait que nous étions aimés, soutenus par Cocteau, et que Satie... Je regrette beaucoup que mes enfants et la jeunesse de maintenant n'aient pas connu ces moments merveilleux. De ces premières des ballets russes, de ces rencontres avec Stravinsky, Ravel, Faya.
Mais est-ce que Eric Satie était bien ce personnage, pour employer un mot que l'on galvaude beaucoup aujourd'hui, insolite?
Il était insolite, mais c'était drôle. Il se fâchait tout le temps, il était susceptible. Il se fâchait, il avait des manies. Il se promenait toujours avec un parapluie malgré le temps. Il faut dire aussi qu'il avait d'autres manies, c'est qu'il allait à pied d'un bout de Paris à l'autre et qu'il allait retrouver son ami Paul Fard quelquefois à 3 heures du matin. Il allait de Montmartre chez Lippe et de chez Lippe par quelqu'un. Il chante toujours avec son parapluie et son chapeau melon. Il était très susceptible. Ça, évidemment, le parapluie a joué un grand rôle dans sa vie. Il s'est fâché avec Georges Auric, il s'est fâché avec Maurice Ravel et avec sa mère, car un jour, en montant des étages avec un parapluie mouillé, Madame Ravel, mère, aurait fait des observations à Satie qu'elle aurait sali son appartement. Satie, vexée, est partie en claquant la porte et a décidé que jamais il ne parlerait à Ravel. Il a d'ailleurs été fâché avec moi. Il a dit « Vous n'êtes plus ma fille » parce qu'il savait que j'étais très amie avec Ravel et que j'allais souvent passer des week-ends à Montfort-la-Maurie.
Par de nombreux témoins, on sait que Eric Satie avait l'esprit très caustique.
Oui, il nous disait « Vous comprenez, mes enfants ?» On vous dit toujours, il faut arriver. Arriver où, disait pendant ce temps-là. Arriver où? À quelle heure? Par quel train? Il nous disait aussi, il a fait une conférence qui s'appelait l'éloge. L'éloge des critiques. Alors, il a fait toute cette conférence au Vieux Colombier en appuyant toutes les fins de mots, les critiques. Alors, au bout d'un moment, la salle riait tellement qu'il n'a presque pas pu finir son éloge des critiques.
Je suis certain, madame, qu'en hommage à ce vieux maître, vous jouez souvent du Satie.
Naturellement, je joue la seconde gymnopédie, qui est une œuvre que j'aime particulièrement. D'ailleurs, je crois que pour cela, je ne suis pas originale.
À peine plus loin, sur la gauche, une rue plus petite encore, la rue Courty, abrite dans ses quelques maisons, comme si les rues les moins longues étaient faites pour les immortels, une célébrité du jour, le nouvel académicien Marcel Achard. Passons. Germaine Taillefer, quand elle fréquente le théâtre, se rend à l'opéra. Aujourd'hui, Carmen. Aujourd'hui, mais hier, Stravinsky et les ballets russes. Germaine Taillefer et Max Favalelli se sont retrouvés au pied du grand escalier.
Bien, nous nous élevons dans la hiérarchie des monuments, madame. Après les piliers de café, voici les cariatides de l'opéra. Et si vous m'avez entraîné au pied de cet escalier gigantesque, c'est certainement pour y déposer un souvenir.
Oui, et c'est un des souvenirs qui a plus marqué ma jeunesse. Car naturellement, comme je vous ai dit, après mes études au conservatoire, surtout après la guerre, j'ai commencé à contacter les œuvres de Stravinsky. Et naturellement, à 20 ans, Stravinsky, c'était le dieu de la musique, c'était Bach. Enfin, c'était tout ce qu'on peut imaginer de grand et de merveilleux qui arrivait dans notre vie, à tous les garçons et filles de ma génération. J'ai eu le privilège d'être emmené à une répétition des ballets russes par Madame Missiasser, qui était, comme vous saviez, l'égérie de Diaghilev. J'étais tranquillement à ma répétition dans le noir, à regarder avec des yeux écarquillés ce merveilleux spectacle, quand tout d'un coup arrive un petit monsieur à lunettes venant s'asseoir à côté de moi, et Missiasser me dit doucement « Germaine Taillefer, Igor Stravinsky ». À ce moment-là, j'ai cru que j'allais m'écrouler, que le plafond de l'opéra tombait sur ma tête. Je pouvais imaginer que j'étais à côté de Stravinsky. Alors, je n'ai plus pouvoir. La répétition était extrêmement brouillée, car je n'osais regarder de côté pour voir comment était Stravinsky, comment était cet homme extraordinaire. À la fin de la répétition, Igor dit « Je vous emmène tous prendre un pot, mes enfants. » Avec son grand accent russe que je ne fais pas. « Venons prendre un pot d'été. J'emmène Germaine Taillefer prendre un pot. » Alors, nous allons à un bistrot, là, près de l'opéra. Il passe une petite marchande de bouquets de violettes. La première chose que fait Stravinsky, c'est de m'offrir un bouquet de violettes. J'aime mieux vous dire que ce bouquet de violettes, je l'ai regardé toute ma jeunesse.
Et vous le déposez aujourd'hui, au pied de Stravinsky.
Nous sommes devenus très grands amis par la suite, et je vais souvent raconter l'histoire du bouquet de violettes, il en arrive beaucoup.
Le noble opéra et le non moins noble opéra comique entretiennent des relations de bon voisinage. Germaine Taillefer, en remontant le boulevard des Italiens, n'a certainement pas oublié le plus beau chahut que les théâtres subventionnés aient connu quand, en 1951, l'opéra comique a créé sa caricature des poncifs lyriques sur un livret d'Henri Janson, Il était un petit navire.
M'enverras-tu au moins une carte postale avec des mots gentils et des baisers tout pleins?
Je t'enverrai de chaque escale, je t'enverrai d'un peu partout mon amour, des cartes postales sentimentales, originales et tout et tout. Et je t'adresserai aussi des mots tendres pris sur le vif avec des baisers du pays et des ananas adoptifs, le tout suivi comme il convient d'un post-scriptum en bolivien. Mais puisqu'on est sur le départ, retiens mon amour, retiens bien le nom des ports où Valentin, le matelot du Brigandard, s'arrêtera un instant pour récapituler son amour. Mogador, Canaries, Cap Vert, Saint-Louis, Dakar,
Cap Luis encore et Davey,
Pernambouc et Bahia, Victoria, Trinidad, Rio de Janeiro, et Montevideo,
Rideo, Vidambouc,
Orléans, Beaujency, Notre-Dame de Clermont, Vendôme, Vendôme, Panama, Costa Rica, etc. Et j'en passe, et des meilleurs.
Couvre-toi bien, ne prends pas froid, et prends des grocs chauds tous les soirs, un rhume. Et si vite arrivé, surtout ne va pas te noyer et pense à moi quelquefois.
Heureux amant,
pourquoi tant voyager? Notre amour est un monde, pourquoi non pas faire le tour?
Le monde est un amour, si nous restions ici, dans notre lit, je te ferai voir du pays. Si nous restions ici, dans notre lit, je te ferai voir du pays.
Par la chaussée d'Antin, tournant autour de la Trinité, où Robert Derry, qui eut goûté les remous de ce petit navire, a longtemps sévi avec ses branquignoles, Germaine Taillefer montait par la rue Pigalle à Montmartre. Elle allait y rendre visite à celui qui guidait ses premiers pas, la présentait à Éric Satie, et chez qui elle allait écouter la jeune musique d'Arius Milhaud.
Je voudrais bien, Monsieur Milhaud, que vous évoquiez à votre tour votre première rencontre ou vos premières rencontres avec Germaine Taillefer.
Eh bien, il y avait au conservatoire une charmante jeune fille blonde qui était extrêmement doué, qui ramassait à la pelle tous les premiers prix, si j'ose dire, alors qu'Honegger et moi, nous moisissions sur de pauvres accessites. Et c'était Germaine Taillefer, à la classe de Vidor. Nous l'avons retrouvée parce que dans les classes au contrepoint, elle était chez Caussade, et Honegger et moi, nous étions chez Gédalge. Et alors, à la classe Vidor, on a retrouvé Germaine, et naturellement, nous avons trouvé que... tous, qu'elle était merveilleusement douée. Moi, je disais, c'est de la musique qui sent bon. C'est de la musique de jeune fille dans la plus noble acception du mot. Et alors, Germaine a été entraînée en même temps que moi et que mes camarades dans l'aventure groupe des six, ce qui a été une charmante aventure. Et Germaine représentait un peu le sourire du groupe. Ce qui fait qu'au fond, nous avons commencé notre carrière ensemble, et comme le groupe des six était fondé sur l'amitié, c'est encore bien agréable de retrouver 40 ans après, car cette année, 1959, c'est le 40e anniversaire du groupe des six, dont personne ne s'est aperçu, sauf nous, et c'est bien agréable pour cet anniversaire d'avoir la visite de Germaine chez moi.
Nous allons oublier que M. Darius Milhaud nous reçoit, Germaine Taillefer. J'aimerais que vous me disiez quelle influence il a eu sur vous.
Darius m'a aidé dans ce sens qui m'a fait découvrir la musique tout court. Car quand on est observé par des études et qu'on donne des leçons de piano, on n'a pas beaucoup le temps de se créer une culture musicale. Avec lui, j'ai connu Debussy, Schoenberg, Ravel, Stravinsky. Et je dois dire qu'à 20 ans, quand on rencontre Stravinsky, ça, c'est une chose très, très, très importante. Et alors, grâce à lui, j'ai pu évoluer, et surtout, les bons conseils qu'il m'a donnés, les leçons d'orchestration qu'il m'a données, l'encouragement énorme, m'ont aidé beaucoup. Il parle de l'amitié, je dois dire que c'est vrai. C'était une petite famille, nous six. Mais il y avait cette chose extraordinaire, c'est que nous avions une telle admiration les uns pour les autres, que quand quelqu'un d'extérieur se permettait de dire « cette œuvre-là n'est pas bonne de Honegger », nous étions fous. Quand il disait Poulenc « oh, c'est moins bon que d'habitude », nous étions fous, on remettait les gens à leur place. Ce qui était écrit par l'un des six, c'était une chose sacro-sainte, on ne devait pas y toucher. Et je crois que c'est la chose la plus rare, c'était cet encouragement, cette admiration mutuelle et cette amitié qui ne s'est jamais démentie.
Boulevard Rochechouart, boulevard de Clichy, la fête foraine regarde du côté de la butte. Toutes ces boutiques ouvertes sur le même trottoir. Vous avez remarqué, il n'y a toujours qu'un seul côté d'une rue où se promène la foule. C'est d'ailleurs le trottoir des deux ânes, du 10h et des trois baudets. Et au bout du boulevard...
Nous avons fait chou blanc, et c'est pourquoi nous nous sommes réfugiés dans un petit bistrot du quartier, puisque nous n'avons pas retrouvé ce petit Bessonneau où, madame, chaque samedi soir, le groupe des six se réunissait.
Nous réunissions à ce petit Bessonneau, ce petit restaurant, parce qu'il était très bon marché et que nous n'étions pas riches.
Combien coûtait le dîner?
Ah, 10 francs.
Ah, et vous déposiez votre pièce en arrivant?
On dépensait sa petite pièce en arrivant, on avait un merveilleux dîner.
Comment se passait ces dîners? J'imagine qu'il y avait en effet beaucoup d'amis et des lettres et de la peinture qui vous rejoignaient là.
Oui, nous avions des gens très amusants, par exemple Radiguet, qui n'était pas amusant, il était sombre, il était triste, mais enfin, il était très intéressant. Il y avait Jean Hugo.
Le
peintre Jean Hugo.
Il y avait probablement Max Jacob.
Max Jacob, très 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 drôle, très très enjoué toujours. Qu'est-ce qu'il y avait?
Pierre Bertin,
qui faisait des imitations, qui chantait merveilleusement, qui était notre interprète à tous. Il chantait nos chansons. Paul Morand.
Oui. Et peut-être Henri Sauguet, qui était au.
Ah, Henri Sauguet
très...
faisait partie de la famille.
C'est ça, oui.
Il n'était pas les six, mais il était le sixième quand même. Il était le sixième de notre cœur.
Et puis alors, l'œil noir de Picasso, qui devait regarder.
L'œil noir de Picasso, de temps en temps, il venait aussi également avec sa femme, qui était une ancienne danseuse des ballets russes.
Et quelques gens du monde, peut-être comme Étienne de Beaumont.
Ah, Étienne de Beaumont, on n'en ratait pas ça. Oui. Étienne de Beaumont était toujours à l'affût de tout ce qui se passait. Il lui mettait son profil merveilleux, avec sa grande chevelure.
Et je pense que tout cet orchestre devait être mené par le magicien, par Jean Cocteau.
Ah oui, ça vous fait dire le magistral avec que comme égal que le magicien, c'était un nana à qui, je crois, un jour est venu à nos dîners. Et alors le duel entre nana et Jean Cocteau était extraordinaire.
Et dans quelle atmosphère ça se passe? Alors, c'était grande très
gaieté.
Libre,
oh,
très
grande
gai.
Gaieté, une grande gaieté, dans un tout petit bistrot de rien du tout. Et on avait naturellement une salle particulière pour tous ces fous que nous étions, et ça, c'était des éclats de rire à n'en plus finir. C'était une grande gaieté. Ça a été la joie de notre jeunesse aussi, ça.
Et je suis certain que le patron du petit Bessonneau, M. Bessonneau lui-même, ignorait qu'il abritait un cénacle semblable.
Je ne sais pas s'il l'ignorait, parce que déjà Cocteau n'était pas ignoré, vous savez. Vous savez,
ah
que
bon?
C'était déjà une très grande personnalité. Et puis alors, les gens du monde qui venaient avec de merveilleuses voitures, je sais pas, ça faisait tout de même très sérieux. Ça valait la peine tout de même de se dire qu'est-ce que sont ces fous pour qu'ils soient à ce point pilotés par des gens qui paraissaient, pour ce monsieur Bessonneau, en admettant qu'il s'appelle Bessonneau, extrêmement fortuné.
Oui, oui, oui.
Et comme disent les cartes anciennes, haut placé.
Place Clichy, la rue descend, traverse la place de l'Europe, passerelle suspendue au-dessus des lignes de chemin de fer où passe un train toutes les minutes. On tourne autour de l'église de la Madeleine. Au temps où les boulevards étaient rois, on y célébrait les mariages élégants et on y lisait le journal à la messe de midi. Seul vestige de l'élégance perdue, un cabaret chez Maxime et un palace. Avoir un appartement qui donne sur la place de la Concorde, un rêve. Oui, un palace, le Crillon.
Dans ce palace de marbre qui a un peu l'air d'un cénotaphe, je crois que danse pour vous, madame, un petit fantôme avec une badine et un chapeau melon, c'est celui de Charlie Chaplin. Et c'est peut-être l'occasion, puisque nous sommes au Crillon, d'évoquer votre séjour aux États-Unis. Vous êtes parti là-bas, je crois, vers les années 1925.
Oui, je suis parti pour une tournée de concert. J'avais écrit un concerto pour piano orchestre et j'étais engagé pour le jouer avec Stokowski à Philadelphie, à New York. En tout cas, je me suis mariée en Amérique à la suite de ces tournées de concert. Je me suis mariée avec un dessinateur qui était le caricaturiste le plus en vogue d'Amérique. Il s'appelait Ralph Barton. Il représentait en Amérique ce que représentait Sénep à la même école à Paris. Et alors, il était un garçon d'une grande culture. Il avait comme meilleur ami, naturellement, pas des peintres ni des dessinateurs, personne de l'art pictural venait chez lui, mais Charlie Chaplin et les musiciens venaient beaucoup chez lui, Charlie Chaplin et les hommes de lettres. Ma rencontre avec Charlie Chaplin a été faite à ce moment-là. Il était venu d'Hollywood à New York pour... pour son procès de divorce avec cette femme, Lita Gray, la mère des deux garçons, qui lui avait fait des ennuis. Ça a été la période la plus noire de sa vie.
Oui.
Il était dans un état de découragement, de cafard épouvantable. Et comme il était très intimement lié avec mon mari, il s'ennuyait tellement chez un avocat qu'il venait passer toutes ses journées chez moi. Il s'amenait à 10h du matin, il en repartait à 3h du matin. Il téléphonait 3 ou 4 fois chez son avocat pour savoir comment les choses se passaient. Et il restait à la maison la plupart du temps. Mais comme mon mari, à ce moment-là, travaillait, faisait des dessins, était toute la journée à sa table de travail, pour s'occuper, Charlie et moi, nous avions décidé de faire de la musique à deux pianos. J'avais déjà remarqué qu'il jouait facilement du piano. Et je lui demandais qu'est-ce que c'était. Il me disait « Oh, mais c'est rien, c'est de moi, c'est pour m'amuser. » C'était très drôle parce que, tel qu'on le connaît, ce n'est pas étonnant de voir qu'il y avait un mélange d'italianisme, de roulade et de sentimentalisme à l'italien, et en même temps, un côté satique était très, très, très évident. Ayant découvert ça, je me suis mis à l'entraîner, à l'encourager dans ce style-là, et je lui ai dit, mais pourquoi ne faites-vous pas vous-même la musique de vos films? C'est tellement vous, c'est tellement pareil à ce personnage que vous êtes, c'est tellement l'expression complète de ce que vous êtes. Mais non, mais je n'ose pas, je ne sais pas écrire la musique, je n'ai jamais écrit la musique. Alors je lui ai dit, mais qu'il y avait assez de musiciens en Amérique pour lui remettre ses partitions au nez. Et je crois qu'il y a beaucoup pensé parce que nous passions nos après-midi improvisés tous les deux, et quand j'ai dû rentrer, parce que la vie nous a séparés, je suis rentré en France, puis reparti à Hollywood, Quand j'ai appris quelques années que c'était lui-même qui faisait ses partitions, je pensais qu'il n'avait pas oublié ce que je lui avais dit. Et ça m'a fait très plaisir, parce que tout de même, c'est un personnage assez complet.
Est-ce que vous l'avez, c'est à ce fantôme que je faisais allusion tout à l'heure au crayon, vous l'avez revu depuis?
Je l'ai revu à ses réceptions officielles, il y a 2-3 ans. Mais enfin, ça n'était pas la même chose. Bien que cette espèce d'incroyable gentillesse était très émouvante, car je suis venue le voir au crayon avec ma fille, puisqu'à ce moment-là, j'étais veuve et je suis remariée. Et alors, je lui ai présenté ma fille et son mari. Et alors, à ce moment-là, Charlie Chaplin fait une chose qui était très émouvante. C'est lui qui a pris la parole. Il a raconté des souvenirs de notre vie passée, des concerts où il avait assisté à des premières auditions de moi, dont j'avais complètement oublié tous les détails. Il disait, mais vous vous rappelez, je ne me rappelais de rien. Et lui se rappelait de tout. Il a raconté tout ça à mes enfants. J'ai trouvé que c'était assez gentil, assez émouvant. Ça avait une espèce de gentillesse incroyable de Charlie Chaplin. Il a tout raconté. J'ai dit, mais comment ça? Mais il dit, elle ne se rappelle rien, votre mère, elle est idiote, elle ne se rappelle rien. Mais moi, je me rappelle. Je me rappelle comment elle était habillée. Je me rappelle quand elle était au pupitre avec Koussevitzky. Qu'on voyait ces toutes petites bonnes femmes pendant Koussevitzky et qui avaient l'air de savoir. S'il y avait de plus drôle, il disait à ma fille, c'est qu'elle a l'air de savoir ce qui se passe dans un orchestre.
Ouais.
Alors là, il avait été médusé de ça.
Eh bien, l'amitié, c'est ça. Oui.
C'est
on
ça,
enfouit
l'amitié.
Des trésors,
oui.
Et on vous les ressort,
c'est
au
ça.
Moment où vous ne y attendez pas.
Au bout de la place de la Concorde se déroule au midi le ruban de la Seine, tenu à l'horizon par la tour Eiffel, comme par une épingle piquée dans Paris.
On prétend que les Parisiens ne montent jamais à la tour Eiffel, mais le parisianisme, madame, doit l'exiger, puisque vous m'avez entraîné jusqu'à la première plateforme de la tour, quitte à avoir le vertige. Si vous m'avez entraîné là, il y a une liaison toute fine, toute simple, toute évidente qui s'impose, c'est que vous allez me parler des mariés de la tour Eiffel, de Jean Cocteau, certainement.
Ben, je vais vous parler d'un scandale qui était à peu près sans précédent, en dehors du sac du printemps de Stravinsky. Les mariés de la tour Eiffel, évidemment, sur un autre terrain, étaient un spectacle d'une grande gaieté, d'une grande bouffonnerie. Les personnages qui avaient des masques, je ne sais pas si vous connaissez le sujet.
Oui,
c'était des mariés avec la foire, avec les têtes à massacre, avaient des masques extrêmement drôles, énormes, qui étaient dessinés par Jean Hugo. Et le décor était d'Irène Lagu. Chacun de nous avait fait un petit morceau. Moi, j'ai eu le privilège, et ce n'était pas le privilège à ce moment-là, d'en faire deux, parce que notre ami Louis Duret, qui devait faire la fameuse valse des dépêches, à la dernière minute s'est découragé, et j'ai dû, en 24 heures, écrire la valse des dépêches, qui a été orchestrée par Darius Milhaud. Car Darius Milhaud orchestrait la musique de tous ceux qui ne savaient pas orchestrer, c'était mon cas. Et alors, toujours avec sa bonté, sa gentillesse et sa bonne humeur, nous écrivait notre orchestration, comme ça, avec beaucoup de gentillesse. Eh bien, à la première des mariés...
Où se passait là, cette première, madame?
Au Théâtre des Champs-Élysées.
Au Théâtre des Champs-Élysées. Et il y avait ce qu'on appelle communément le Tout Paris.
Ah, il y avait le Tout Paris, tout ce qu'il y a de plus brillant, toute la critique, enfin tout ça. Alors, naturellement, dès les premiers arrivés des spectateurs, le public commençait déjà à être un petit peu gêné, un petit peu irrité. Dès le discours du général de Poulain, qui était une musique... Évidemment, pas très patriotique et pas très respectueuse, puisque le vieux général Gâteux racontait ses campagnes. Et que là-dessus, Poulac avait fait une petite musique avec un piston qui était absolument irrésistible de fou rire. Il aurait fallu en rire, mais les gens étaient vexés, ont été offensés. Ils croient toujours qu'on se moque d'eux. Dès qu'on veut faire un petit peu de plaisanterie, un petit peu de gaieté, les gens croient qu'on se moque d'eux. Le public français est très susceptible malgré tout. J'en sais quelque chose parce que j'ai la même chose avec les... Il était à petit navire avec Janson. Bref, quand on est arrivé au quadrille de la fin, où là, après le spectacle du petit oiseau du photographe qui était sorti une autruche, elle en bicyclette, qui faisait de la bicyclette sur le premier étage de la tour Eiffel, tout ça était tellement loufoque, tellement impossible, que le public était furieux. Un chahut formidable, hurlement... À la porte, à la porte, à la porte, à la porte. Ils se sont foutus de nous, criait Rachilde. Ils se sont foutus de nous, à la porte, à Charenton, criait-on. Moi, j'étais terrorisée parce que je pensais que c'était seul mon pauvre petit Cadri qui avait déclenché cette folie. Et quand on a entendu un cri retentissant, c'était Léopold Farr qui avait cassé sa canne sur la tête d'un critique à la joie d'Éric Satie.
Et vous assistiez dans la salle, vous étiez dans les coulisses ou dans la salle?
Non, moi j'étais dans une loge cachée derrière les chaises allongée par terre pour qu'on ne me voie pas parce que j'avais peur de recevoir des choses sur la tête.
C'est ça.
J'étais terrifiée.
Terrifiée. Ben, c'est une soirée, en effet, qui a dû rester dans votre esprit. Daguilev avait dit à Cocteau, étonnez-nous, mais là, il avait donné bonne mesure. Si nous avions bonne vue, madame, et s'il n'y avait pas ces brumes de l'hiver, nous pourrions voir un pays qui vous est cher, c'est la Côte d'Azur, puisque vous habitez, je crois, vous avez une maison à Grasse.
J'ai habité pendant plusieurs années à Grasse. Mais là, j'ai fait une rencontre qui est évidemment un souvenir à la fois charmant et d'une grande tristesse, puisque c'était ce pauvre petit Gérard Philippe. Je l'ai connu quand il était enfant, puisque nous étions voisins de campagne. Et quand il était jeune homme, à 18 ans, c'était au moment de la guerre, il venait souvent à la maison où j'ai eu la chance de pouvoir lui faire rencontrer Gide, qui venait faire de la musique chez moi, qui habitait à ce moment-là Cabris et qui s'ennuyait. Alors on descendait à ma petite villa qui s'appelle l'Angeletto, qui est d'ailleurs célèbre pour une autre raison, puisque cette maison Angeletto était habitée par Maria Cassatt.
Ah oui.
Et que j'avais chez moi un lit qui a été le lit de Maria Cassatt.
Ah tiens.
D'ailleurs, dans une publication récente, on parle de la villa d'Angeletto. Alors, cette villa d'Angeletto a été célèbre puisque André Gide y est venu aussi. Et Gérard Philippe venait à des petits déjeuners. Alors, à ce moment-là, je me suis rendu compte, il venait de passer ses examens, il ne savait pas trop ce qu'il allait faire, il voulait apprendre à faire du jazz. Et quand il chantait des chansons en imitant Trenet, que je vais accompagner, vous l'apprendre la musique, chantait très faux, mais ça n'avait pas d'importance, il n'avait pas besoin d'apprendre à chanter juste, parce qu'il disait tellement juste, tout ce qui se faisait était tellement bien, que vraiment c'était un garçon, on sentait le don à une puissance extrême. Alors c'est dans les petites fêtes de charité que l'on faisait pour la guerre, que j'ai eu l'occasion de l'accompagner, de lui faire avoir sa première émission avec Robert Beauvais.
Ah,
Robert
oui.
Beauvais qui était venu m'interviewer au sujet du petit navire. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ici à Grasse? J'ai dit, mais si, il y a un phénomène extraordinaire, je vais vous faire rencontrer, c'est Gérard Philippe. Et c'est comme ça, alors j'ai invité Gérard Philippe à déjeuner avec Robert Beauvais, et de là, on a décidé une émission qui a eu lieu à Nice. Et j'ai accompagné Gérard dans ses premières chansons, chantait une chanson de Trenet, les saintes, je ne sais pas quoi, les saintes Clotilde, quelque chose de très très drôle, qui chantait avec un esprit fou.
Ce n'est pas déjà, hélas, le mois des vacances, et Germaine Taillefer, comme tous ceux qui, le samedi en file indienne, partent sur l'autoroute à la recherche du soleil et de l'air pur, se souvient des week-ends du passé. L'époque où Germaine Taillefer se rendait à Montfort-la-Maurie était celle des déjeuners sur l'herbe, des canotiers et des moustachettes. Savez-vous ce que c'est que les moustachettes ?
Femme produit de l'industrie qu'un siècle éclairé se plaît à vanter, le plus merveilleux, le moins coûteux, le plus merveilleux, le moins coûteux.
C'est
la moustache, la moustache. Moustache qui attache le sexe enchanteur. Allez pour vainqueur, faites-vous aimer, mais
messieurs, partez, faites-vous aimer, messieurs, partez. La moustache, la, 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 la moustache, petit pois.
Madame Germaine Taillefert, nous sommes venus jusqu'à Montfort-la-Maurie. Nous avons pénétré dans une maison à flanc de coteau qui s'appelle le Belvédère et vous avez laissé, je crois, beaucoup de souvenirs que nous sommes venus réveiller. C'est la maison de Maurice Ravel. Et Madame Hélène Jordan-Morange a bien voulu nous servir de guide, et un guide particulièrement qualifié et éclairé, puisqu'elle a été une amie très fidèle de Maurice Ravel, auquel elle a consacré un volume. Nous sommes dans le... Madame Jordan-Morange, puisque vous avez bien voulu accepter nous servir de cicérone, nous sommes dans le cabinet où il travaillait.
Dans le bureau de travail.
Dans son bureau de travail.
Il y a un bureau où il écrivait... Peu, je crois, il travaillait beaucoup au piano. Et sur ce piano, on peut voir tous les objets qu'il leur avissait. Vous savez, il adorait les objets.
En effet, il y a une
objets.
Accumulation de petits bibelots, de, oui. de petites choses minuscules et charmantes, oui. Un peu ridicules. Mais, et, par exemple, je crois, Madame Taillefert, vous avez marqué un petit temps devant un canapé en porcelaine.
Minuscule.
Pourquoi?
Eh bien, parce que je savais que Maurice Ravel adorait ce genre de bibelots un peu ridicules. Plus c'était suranné, ridicule et très, très emberlificoté, des petites dentelles de porcelaine. Je crois que c'est une petite chose de 1830, sans aucune valeur, mais extrêmement drôle d'ailleurs, qui est accompagnée d'un petit piano. Mais c'est pas moi qui lui avais donné les petits pianos.
Mais le canapé est de vous.
Mais le canapé de moi, bien sûr. Tous les amis apportaient à Ravel un petit bibelot que nous pensions pouvoir lui faire plaisir.
Et je me rappelle très bien le jour où tu l'as apporté.
Oui, parce que je dois dire, j'interromps mon amie Hélène Morange, mais nous étions les deux fidèles, nous étions les deux sœurs, les deux fidèles, et nous venions toujours ensemble à Montfort, et nos souvenirs, je dois dire, sont à peu près identiques, parallèles. Elle l'a vu beaucoup plus longtemps que moi, parce que moi, je suis mariée, j'ai quitté Paris, j'étais en Amérique, Dieu sait où. Mais enfin, Hélène est toujours restée fidèle, mais les moments, les meilleurs moments de ma rencontre avec Ravel ont été toujours accompagnés d'Hélène. Alors maintenant, je vous passe Hélène.
Moi, je me rappelle une promenade en forêt de Rambouillet, parce que Ravel était un grand marcheur. Vous savez, il était petit, mais il était très musclé. Il avait l'air d'un petit jockey quand il marchait.
Un petit escrimeur.
Oh,
oui.
Il était extraordinaire. Et un jour, nous étions venus déjeuner, Germaine et moi, et nous dit « Je vous emmène faire un tout petit tour en forêt. » Moi, j'étais un peu fatiguée, je lui dis « Oui, mais pas trop longtemps. » « Non, non, vous verrez. » Il nous emmène. Et finalement, pour aller voir la mare qui ressemblait à Péléas et Mélisande, pour aller voir une fleur qui ne fleurissait que les 4 ans, comme pour parler comme Colette, eh bien, il nous a fait marcher 13 kilomètres. Et je me rappelle, en revenant, j'étais fourbue, lui était tout jeune homme, et notre Germaine s'est mise au piano et a joué, par cœur, de mémoire, tout Petrouchka. Nous étions absolument sidérés d'admiration.
Mais il y a un petit objet là qui est aussi ravissant. Je voudrais bien... C'est un oiseau vraiment minuscule.
C'est un petit rossignol.
Qui est de la taille, mais même pas d'un index, à peine. Oh non,
oh,
minuscule tout en plumes. Et il aimait le faire chanter.
Ah, il le faisait chanter, dès.
Attendez. Ben voilà, voilà l'oiseau qui chantait à l'oreille de Ravel quand il était à son piano.
Et dès qu'il avait un visiteur, n'est-ce pas, il se précipitait pour montrer le petit oiseau, pour montrer la poupée d'Adélaïde aussi. C'était le moment où il avait fait son ballet. Et c'est Suzanne Roland-Manuel qui avait fait une petite poupée extraordinairement drôle, sous globe, qu'elle avait envoyée à Ravel. Et puis il y a des petits bateaux aussi qui tanguent sur des vagues en carton.
Ce qui m'a beaucoup frappé, madame, c'est le style poiré, le style iribe de toute la maison, parce qu'il était très soucieux d'être l'avant-garde, si j'ose dire.
Il aimait beaucoup l'avant-garde, oui. De tout, n'est-ce pas? Mais même pour les jeunes, n'est-ce pas? Un moment où il faisait des choses comme le trio, eh bien, il était un peu inquiet de voir les six qui abandonnaient.
C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'intéressait à moi.
Oui.
Pour me guider un tout petit peu, pour m'empêcher d'aller un petit peu trop loin, mais tout de même pour m'aider beaucoup pour l'orchestration.
L'orchestration,
oui. Ah oui, bien souvent, je suis venue, je vois, quand je vois ce piano, j'évoque les partitions que j'apportais assises, et parce qu'il me recommandait de travailler au piano. Et il me disait, pour apprendre à orchestrer, il faut prendre une valse de Strauss, et il faut l'orchestrer 12 fois différemment.
Oui, c'est la même phrase. Quand il disait à ses élèves, copiez, copiez, et si vous restez vous-même, c'est que vous avez quelque chose dans le ventre.
Mais moi, je le vois toujours comme un petit homme gris-perle. Il n'avait pas une affection pour la couleur grise.
Mais parce qu'il était très coquet, et comme il avait des cheveux gris-argent, alors très souvent, il mettait des habits gris, et moi, je lui donnais toujours des cravates. Et au lieu de faire n'importe quoi, vous savez, je serais mal tombée, mais on me parlait pendant un mois d'avance de la cravate que j'allais lui donner, de sa couleur. Il était extrêmement coquet.
Mais la gardienne de ce domaine, Madame Jordan-Morange, est une personne qui déjà avait approché un autre homme illustre. C'est Céleste qui fut la gouvernante de Marcel Proust. Céleste, je m'excuse de vous, on vous appelle par votre prénom. Vous êtes entrée dans la littérature. Vous êtes la gardienne de cette maison depuis quand?
Voilà, ça fait 4 ans. Mais je n'y suis venue que depuis 1958, parce que quand Monsieur Édouard Ravel m'a chargée, en me disant qu'il aimerait beaucoup que je lui conserve la maison de son frère, absolument comme s'il y était, qu'il y règne, parce que il voulait en faire une donation ou un musée, et qu'il voudrait que je vienne la tenir tout à fait comme quand il était là. Il m'a dit, allez la voir, et si elle vous plaît. Au premier moment, j'ai été un petit peu repoussée par la maison, qui m'a paru un peu triste, et ma sœur me dit, non, il vaut mieux prendre cette maison et la garder, et nous la tiendrons du mieux que nous pourrons, comme quand nous étions chez M. Proust.
Je dois dire que ce mieux... On a l'impression, quand on rentre ici, que Maurice Ravel est encore vivant. En effet, j'ai remarqué, par exemple, que dans sa salle de bain, il y a encore les flacons avec le parfum intact, comme autrefois, comme du temps où il était là.
Monsieur, je vous remercie de cette marque que vous me témoignez, qui me remplit de joie, parce que c'est exactement ce que je voudrais donner à cette maison, qu'elle reste absolument... comme quand Maurice Ravel était là. De plus en plus, les visiteurs sont nombreux et viennent de tous les pays du monde. Ils sont très heureux et reconnaissants et portent le plus grand hommage à son frère d'avoir conservé cette maison où on a l'impression que Ravel n'est pas mort, mais qu'il habite toujours sa villa et qu'il est toujours là.
De retour à Paris, après ce pèlerinage à Montfort-l'Amaury, Max Favalelli a reconduit Germaine Taillefer chez elle, à Montparnasse, dans l'appartement qu'elle partage avec son gendre, peintre abstrait, sa petite fille, dont le visage rond et les yeux malicieux rappellent les yeux qui inspirèrent Jean Cocteau, et sa fille, pianiste.
Vous avez pu suivre Germaine Taillefer en voyage, accompagnée par Max Favalelli et présentée par Bernard Lavalette. Collaboration artistique sur la route, Émile Noël, en studio Jean Jusforg et Suzanne David. Bon voyage est une émission de Jacques Florent, réalisée par Henri Soubéran.
C'était un numéro du Bon voyage de Jacques Florent, réalisé par Henri Soubéran avec Germaine Taillefer au micro de Max Favalelli. Première diffusion le 25 janvier 1960 sur Paris Inter.